Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bercy taille dans ses effectifs. Moins 5800 postes d'ici 3 ans. Qui sera touché et pourquoi? Réponse et analyse dès le début de ce journal.
Nous nous pencherons ensuite sur la suppression du statut de cheminot. Les salaires et les missions des nouveaux embauchés divisent direction et syndicats.
Dans ce journal, nous irons à Londres entendre les arguments des pros et des anti-Brexit durs. Hier, plus d'une vingtaine de députés conservateurs ont tourné le dos au Premier ministre Boris Johnson.
Des émeutes xénophobes secouent l'Afrique du Sud depuis 3 jours. 5 personnes ont été tuées. Les habitants sur place ont-ils conscience de cette violence ciblée? Nous poserons la question à notre correspondant.
En France, avant la probable candidature de Cédric Villani pour la mairie de Paris ce soir, Frédéric Seyss se penchera dans le billet politique après ce journal sur l'art et la manière d'être un candidat dissident. L'effort pour le moment n'a été fait que de moitié. Après la disparition ces 2 dernières années de plus de 4000 postes au sein de l'administration fiscale en France, le gouvernement prévoit d'en supprimer 5800 autres entre 2020 et 2022. Une coupe nette qui s'inscrit dans l'objectif plus global de supprimer des postes de fonctionnaires. Bercy supportera donc les 2/3 de l'effort demandé par le gouvernement. 10 000 postes supprimés au total sur les 15 000 visés dans la fonction publique. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Ce sont donc 5800 postes supprimés d'ici 3 ans. Quels services sont concernés?
Alors il y a d'abord les agents des impôts, hein, car pour Bercy, les missions sont en train d'être redéfinies et cela justifie des baisses d'effectifs. Il y a le prélèvement à la source et la fin annoncée de la déclaration de revenus pour la grande majorité des ménages l'an prochain. Il y a aussi la suppression sur 3 ans de la taxe d'habitation et la fin programmée des paiements en cash dans les trésoreries. Un plan est d'ailleurs discuté en ce moment avec les syndicats pour redéfinir le réseau des centres des impôts partout sur le territoire d'ici à 2022. En lieu et place de certaines trésoreries, il y aura des maisons France Service. Et ce qui est prévu, c'est plutôt d'avoir un agent formé par le fisc pour assurer l'accueil et si besoin, une mise en relation ultérieure, téléphonique ou physique avec un agent des impôts. Ça réduit bien sûr le nombre de postes nécessaires. Des suppressions d'effectifs, il y en aura aussi au niveau des douanes, puisque des missions de collecte de l'impôt assurées jusque-là par les douaniers vont être transférées à l'administration fiscale.
Et les salariés, eux, Anne-Laure, ne comprennent pas pourquoi les coupes sont si importantes.
Oui, car pour les syndicats, la réforme du prélèvement à la source n'a pas allégé leur charge de travail. Au contraire, elle a généré de nombreuses questions et donc une affluence dans les centres des impôts. Les services sont même, selon eux, au bord de la rupture et ils entendent le faire savoir lors de la journée de mobilisation prévue le 16 septembre prochain, comme nous l'explique Anne Guyot-Velke, secrétaire nationale de Solidaires Finances Publiques.
On appelle l'ensemble des personnels de la Direction Générale des Finances Publiques de faire une première journée de grève et d'amplifier la mobilisation sur l'ensemble du territoire pour contrer à la fois les suppressions d'emplois, mais aussi le projet de transformation globale de l'administration qui va perdre un certain nombre de structures et de présences physiques techniciens sur l'ensemble du territoire.
Et les syndicats espèrent en effet peser sur cette concertation entamée sur le redéploiement du réseau, concertation qui doit s'achever en octobre prochain.
Merci Anne-Laure. Anne-Laure Jumet du service économie de France Info, de France Culture, pardon. Nous sommes sur France Culture et nous parlons maintenant de changement de poste dans le statut et la charge de travail. La SNCF se prépare à mettre en application la réforme ferroviaire votée il y a un an, en juin 2018. Il faut pour cela négocier les règles qui seront appliquées pour les nouveaux embauchés qui n'auront plus le statut actuel de cheminot. Direction et syndicats se retrouvent dès ce matin pour en parler. Ils négocieront d'abord les futurs salaires, Annabelle Grelier.
Si le statut conférait la sécurité de l'emploi aux cheminots, les salaires en échange n'étaient pas très élevés. À l'heure de l'ouverture à la concurrence, la SNCF va devoir changer de braquet. Pour attirer les meilleurs éléments, la direction envisage de relever les grilles de salaire à l'embauche, notamment sur les métiers en tension, comme les électriciens, et dans certaines régions, comme l'Île-de-France ou les zones frontalières. Les 130 000 statutaires que compte encore la SNCF apprécieront la différence de traitement, avertit Roger Dilly-Singer de l'UNSA Ferroviaire.
Il nous semble très très compliqué également de trouver des équilibres sociaux dans une entreprise avec des rémunérations disproportionnées entre les uns et les autres qui effectuent les mêmes métiers. Les cheminots à statut d'aujourd'hui qui sont sous-rémunérés par rapport à leurs compétences, c'est une question à revoir. En l'occurrence, l'UNSA Ferroviaire ne voit pas un cadre social SNCF à deux niveaux.
Autre proposition dans le nouveau pacte social, développer la polyvalence. Il existait 500 métiers et spécialités à la SNCF. La direction envisage de n'en conserver qu'une centaine. Les promotions des cheminots seraient conditionnées à l'acquis de nouvelles compétences. compétences. Inimaginable, voire dangereux pour Bruno Poncet de Sudrail.
Aujourd'hui, par exemple, on va demander à un conducteur de train de faire aussi du nettoyage de sa rame quand elle arrive. On voit, il y a ça dans certains pays. Si par exemple vous avez quelqu'un qui tombe malade dans le train, est-ce que vous préférez que le contrôleur de train s'occupe de la personne qui a un problème, ou plutôt qui sont en train de vous vendre une canette de coca ou qui vous vendent un sandwich? Elle est là la question. À un moment donné, il y a différents métiers SNCF qui disaient que vous aviez un service de qualité, qui était reconnu. Est-ce que demain vous voulez que ce service-là de qualité soit cassé? C'est ça, enfin. Ça va très très loin, mais on en est là.
Pour fidéliser ses salariés, la direction compte adjoindre au statutaire la complémentaire santé, dont seuls les contractuels pouvaient aujourd'hui bénéficier. Pas sûr que cela rivalise avec les consultations gratuites dispensées par le système de soins de la SNCF qu'ils ont toujours connu. Sur tous les sujets, les consensus vont être difficiles à trouver, d'autant que direction et syndicats ont à peine 3 mois pour trouver un accord.
La fin du recrutement au statut de cheminot sera en effet effective au 1er janvier prochain. Mettre les femmes victimes de violences à l'abri, les éloigner de leur agresseur, les protéger lors du parcours judiciaire et protéger les enfants. Voici les 4 grands axes du Grenelle consacré aux violences conjugales. Il s'est ouvert hier et durera 3 mois. Ont déjà été annoncés 1 millier de nouvelles places d'hébergement pour les femmes ayant fui le domicile conjugal. Cela va coûter 5 millions d'euros. Un audit également mené dans 400 commissariats et gendarmeries afin de revoir l'accueil des victimes. Cet audit sera lancé dans les jours qui viennent. Des petits pas, des premier pas encourageant, mais pas suffisant, estime Marie Servetti. Elle dirige l'association FIT, une femme, un toit. A-t-elle été déçue ?
C'est pas une déception, non. D'abord parce qu'on sait que les politiques publiques, elles se construisent pas en un claquement de doigts. Il y a quand même un discours du Premier ministre qui est important. Il y a beaucoup de ministres et de secrétaires d'État qui étaient présents. Donc tout ça, ce sont des signes forts qui sont envoyés. Il n'y avait pas le maire. Alors c'est quand même embêtant que ceux qui pensent le budget de l'État ne soient pas présents. C'est un signal qui est plutôt un signal qui n'est pas très bon. Moi, j'avais l'illusion quand même qu'un Grenelle, c'est pas tout à fait ça. Alors, on va dire, pour être optimiste, que c'est l'annonce du Grenelle et que on va pouvoir travailler dans les 8 commissions qu'a annoncé la secrétaire d'État et qu'on va voir ce qui va sortir de ces commissions de travail et si on est réellement capable de créer à partir de là des politiques publiques pérennes et financées. Si c'est pas ça, bon, ben, on aura des mesures qui seront décevantes, parce que l'enjeu est vraiment majeur. Ce comptage, ce décomptage de femmes assassinées, ça crée vraiment un choc. Et moi, je pensais que face au choc, on aurait un électrochoc. J'espère qu'on va le construire.
Ces propos ont été recueillis pour France Culture par Fiona Mogadam, alors que 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ancien compagnon depuis le 1er janvier en France. Et nous évoquions l'audit lancé dans 400 commissariats et gendarmeries. L'idée est déjà critiquée par certaines associations qui estiment que les manquements y sont déjà prouvés face aux femmes victimes de violences conjugales. Le président Emmanuel Macron l'aurait d'ailleurs compris par hasard hier lors d'une visite au centre d'écoute de la plateforme 3919. C'était donc hier avec quelques journaliste à Paris, en écoutant un appel sans intervenir. Le président a été témoin du refus d'un gendarme de raccompagner chez elle une femme battue. Cela arrive souvent, lui a précisé l'écoutante de la plateforme. Le gouvernement s'élargit avec 2 entrants, Jean-Paul Delevoye qui défendra politiquement la réforme des retraites et le député Jean-Baptiste Djebbari qui lui hérite du portefeuille des transports auprès de la ministre de la Transition écologique. 2 nominations plus techniques que politiques, Stéphane Robert.
L'entrée au gouvernement de Jean-Paul Delevoye n'est pas vraiment une surprise. Cette hypothèse était évoquée depuis plusieurs mois déjà. Mais en cette rentrée, le calendrier s'accélère. Édouard Philippe va relancer les consultations avec les partenaires sociaux à partir de demain jeudi. Ensuite, il y aura la concertation citoyenne sur le modèle du grand débat qui a permis de calmer la contestation des Gilets jaunes au printemps dernier. Et puis dans les mois qui viennent, on entrera dans la phase législative. Et le seul moyen pour que Jean-Paul Delevoye continue à porter cette réforme à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, c'était de le nommer au gouvernement. Il n'y entre pas avec le titre de ministre de plein exercice, il reste simple haut-commissaire en charge du dossier des retraites, sous la tutelle de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn. Martin Hirsch avait précédemment occupé un poste de haut-commissaire membre du gouvernement, c'était au temps de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2010. Quant à Jean-Baptiste Djebbari, là encore, il n'y a rien de politique à sa nomination. Il manquait un secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique, puisqu'Elisabeth Borne avait remplacé François de Rugy après sa démission, tout en conservant le portefeuille des transports. On lui adjoint donc un secrétaire d'État pour la décharger de cet encombrant portefeuille. Le député de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari, qui a fait une carrière dans l'aviation civile, s'est spécialisé dans les questions de transport à l'Assemblée. Il a notamment été le rapporteur de la réforme de la SNCF. Adopté en 2018.
Et au total, donc, 37 membres du gouvernement assisteront aujourd'hui au Conseil des ministres puis au séminaire gouvernemental, 19 hommes, 18 femmes. Ce séminaire marque la rentrée autour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe.
8h10 sur France Culture, Boris Johnson pourrait convoquer des élections législatives anticipées au Royaume-Uni, Clara Lecoq-Réal.
Effectivement, il menace en tout cas les députés de l'opposition après avoir subi hier un cinglant revers à la Chambre des communes. Le Premier ministre britannique a d'abord perdu sa majorité. Puis, une motion en faveur d'un report du Brexit en cas de non-accord a été adoptée, Antoine Gignot.
À l'annonce des résultats, une clameur et puis ce cri moqueur. Ça commence plutôt mal, Boris. Car s'il est largement battu, Boris Johnson est surtout trahi par 21 députés conservateurs et pas des moindres, parmi eux deux anciens ministres des Finances et le petit-fils de Churchill. À la tribune, le Premier ministre tente de contre-attaquer, il accuse le Parlement de torpiller les négociations en cours et jure qu'il va déclencher des législatives anticipées.
Je ne veux pas d'une élection, mais si les députés votent en faveur d'un nouveau report inutile du Brexit, peut-être un report de plusieurs années, alors ce sera la seule solution.
Mais ce scrutin qui permettrait de dissoudre l'Assemblée, Boris Johnson ne peut pas l'organiser seul. Il lui faut le soutien des deux tiers des députés et les libéraux démocrates, comme Jeremy Corbyn à gauche, posent leurs conditions.
S'il veut déclencher des élections législatives anticipées, ok qu'il le fasse, mais qu'il fasse d'abord passer le texte qui permet d'écarter une sortie sans accord.
Proposition évidemment inacceptable pour le Premier ministre et le gouvernement. Le match de boxe reprend dans quelques heures.
En Italie, en revanche, fin du combat au sommet de l'État. Sans surprise, les militants du mouvement populiste 5 étoiles acceptent à une large majorité la coalition gouvernementale avec le Parti démocrate de centre-gauche. La liste du gouvernement sera présentée ce matin par Giuseppe Conte au président Mattarella. Le Pentagone annonce plus de 3,5 milliards de dollars pour financer la construction d'un mur à la frontière américano-mexicaine. Promesse de campagne de Donald Trump qui passe donc en force. Car pour débloquer ces fonds, il gèle plus d'une centaine de projet militaire, cela représente beaucoup d'argent, Grégory Phillips.
Avec ses 3,6 milliards de dollars, le ministère américain de la Défense dit qu'il est en mesure de construire 11 tronçons de barrière à la frontière sur environ 280 kilomètres. Le Pentagone assure que les premiers travaux débuteront dans 4 mois sur les terres qui appartiennent déjà au gouvernement fédéral, plus tard sur les autres terrains. Seulement, pour financer ces bouts de murs, l'administration gèle 127 projets de construction ou de modernisation de locaux militaires situés à l'étranger ou aux États-Unis. La prestigieuse académie militaire de West Point devait être en partie rénové, c'est reporté à plus tard. Le patron de l'opposition démocrate au Sénat, Chuck Schumer, dit que c'est une gifle pour toutes les forces armées du pays et une manière de contourner le Congrès. Le président Trump, estime le patron des sénateurs démocrates, cannibalise des fonds militaires déjà alloués pour satisfaire son ego. Le Congrès n'a pas son mot à dire, mais les associations opposées à la construction de ce mur ont déjà annoncé qu'elles attaqueraient le projet devant les tribunes.
Les États-Unis toujours, où le géant des supermarchés Walmart va cesser de vendre certaines munitions destinées aux fusils d'assaut, du matériel utilisé souvent pour les tueries de masse outre-Atlantique. 5 personnes sont mortes en Afrique du Sud ces derniers jours dans des violences xénophobes qui resurgissent dans le pays. Le président Cyril Ramaphosa les condamne, les jugeant totalement inacceptables. Mais force est de constater que certains membres de l'autorité sur place semblent plus laxistes. C'est ce qu'a constaté, en tout cas pour France Culture, Noé Auché-Baudin. Voici son reportage.
Une dizaine d'établissements sont éventrés, vitrines cassées et étagères vidées par les manifestants. Le magasin de Sébastien n'a rien, lui, car il est sud-africain.
Ils ont décidé de cibler les magasins des migrants, des Congolais et Pakistanais. Ils n'ont pas touché aux Sud-Africains, ce qui est injuste car ces gens travaillent dur. Regardez, si vous jetez un œil, c'est vide maintenant.
Un peu plus loin dans la rue, à la tête des manifestants, Sivuyile Nama, il est le porte-parole de la communauté responsable des pillages. Il justifie ses actes xénophobes.
L'Afrique du Sud accueille un nombre impressionnant de migrants, peut-être même le plus de réfugiés dans le monde. Donc, qui est supposé s'occuper d'eux ?
Alors, est-ce vraiment une nouvelle vague d'attaques xénophobes en Afrique du Sud ? Du côté des autorités, on calme le jeu. Le ministre de la police, Bekki Sele, préfère parler de criminalité.
Pour moi, c'est de la simple criminalité. Les gens volent, mais pour le moment, il n'y a rien qui me fasse dire qu'il y a un conflit entre Sud-Africains et les étrangers. On parle de criminalité, pas de xénophobie.
Pourtant, le motif des manifestations était clair, lui. Le communiqué disait, je cite, « Trop, c'est trop, les étrangers, dehors ».
C'était Noé Ochebaudin pour France Culture. Et pour avoir maintenant le point de vue du Nigeria, dont les ressortissants sont victimes de ces violences sud-africaines, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter la revue de presse internationale de ce matin sur franceculture.fr. La météo de ce mercredi en France, elle est marquée par une perturbation pluvieuse qui arrive par les côtes de la Manche ce mercredi matin. Partout ailleurs, le soleil sera encore bien présent. Comptez 17 degrés à Brest dans la matinée, 20 à Besançon, 21 à Paris, Bordeaux et Lyon, 27 degrés à Perpignan. Du soleil donc au-dessus du studio de France Culture, tout juste récompensé par un prix, Guillaume.
Et oui, Clara, pour ainsi dire, vous avez été élu meilleur journal de 8 heures, puisque France Culture a été élu meilleure station de radio lors du 21e prix, grand prix des médias CBNews, un prix qui récompense chaque année l'innovation dans les médias, tant sur le plan éditorial que marketing. Voilà, donc nous sommes heureux.